13h30, ici à Paris, une heure de moins en temps universel. Afrique Midi, bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumay, bonjour à toutes et à tous. L'Angola met fin à sa mission de médiateur dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo, un rôle qu'elle occupait depuis 2 ans. La présidence angolaise en a fait l'annonce ce matin. Au Mozambique, une rencontre entre le président Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane. Premier entretien entre les deux hommes, 6 mois après les élections que Mondlane assure avoir remportées. Le président de l'Association des journalistes du Burkina Faso et le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo, enlevés ce matin à Ouagadougou. Des hommes en civil disant appartenir au renseignement burkinabé les ont embarqués vers une destination inconnue. Et puis pour la première fois, le sommet de l'organisation sur le génome humain s'est déroulé en Afrique, dans la ville sud-africaine de Durban. Malgré de grandes avancées dans le secteur, plus de 20 ans après le premier décryptage complet d'un génome humain, les populations d'Afrique restent les grandes oubliées des études mondiales. Le chercheur Ambroise Wonkam, le président de la Société africaine de génétique humaine, est l'invité d'Afrique Midi. La présidence angolaise l'a annoncé ce matin, après plus de 2 ans passés à jouer les intermédiaires entre Kinshasa et Kigali, Luanda met fin à son rôle de médiateur. 2 mois avoir pris la présidence de l'Union africaine, le président Lourenço estime qu'il est temps de se recentrer sur les priorités continentales, la paix, les infrastructures, le commerce, la santé publique et les réparations pour les afro-descendants. Une décision qui tombe alors que la situation reste tendue dans l'est du Congo. Patient Ligodi, pour quelles raisons l'Angola se retire-t-elle maintenant ?
D'abord, il faut dire que les autorités angolaises constatent que leur médiation s'achève sur 2 échecs. Le premier, c'est la rencontre manquée en décembre dernier à Luanda entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président congolais s'était déplacé, mais son homologue rwandais, lui, ne s'est jamais présenté. Le Rwanda exigeait à ce moment-là que Kinshasa accepte un dialogue direct avec la FCM-23. Et 3 mois plus tard, Félix Tshisekedi a quand même rencontré Paul Kagame, mais ailleurs, à Doha, au Qatar, une rencontre qui a surpris le chef de la diplomatie angolaise, Antonio Tété, qui a exprimé publiquement son étonnement. Le deuxième échec, c'est la tentative de rencontre du 18 mars dernier entre Kinshasa et la FC M23. Là aussi, Kinshasa était présent, mais les rebelles, eux, ont boycotté. Ils protestaient contre les sanctions européennes visant certains de leurs dirigeants. L'autre raison, c'est le climat de méfiance croissante entre Kigali et Luanda qui rendait cette médiation de plus en plus difficile.
Et maintenant, que va-t-il se passer?
La présidence angolaise dit vouloir travailler avec la Commission de l'Union africaine pour désigner un nouveau chef d'État qui pourra reprendre le rôle de médiateur. Ce médiateur potentiel, dit Luanda, devra travailler avec les organisations régionales comme l'ASADEC et l'EAC. Un sommet virtuel est d'ailleurs prévu aujourd'hui. Il doit officialiser la fusion du processus de Luanda avec celui de Nairobi et poser les bases d'une seule et même médiation. Une initiative censée donner de la lisibilité sur les prochaines étapes. C'est ce processus qui est appelé à rester le principal cadre de médiation et on gardera aussi à l'esprit le Qatar. L'émir continue de jouer un rôle discret tentant de maintenir le contact entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi.
À Paris, le concert Solidarité Congo se tiendra bien le 7 avril à l'Accor Arena. C'est en tout cas ce qu'annoncent ce matin les organisateurs de cet événement caritatif destiné à venir en aide aux enfants victimes de la guerre dans l'est du Congo. La date a été vigoureusement critiquée par les autorités rwandaises car le 7 avril marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis. Mais les organisateurs du concert où sont annoncés notamment Gims ou Youssoufa assure que la date avait été choisie sans arrière-pensée, Guillaume Thibault.
Le communiqué diffusé est titré « Solidarité Congo est maintenu à la date du 7 avril ». Alors qu'un report a été un temps envisagé, les producteurs de la soirée indiquent que la date a été choisie malencontreusement en fonction de la disponibilité des artistes et de la salle. Avec la volonté affichée de diffuser, je cite, « un message de paix », les organisateurs poursuivent « alors que nous avons vu les présidents de la RDC et du Rwanda engager une discussion à Doha, le maintien de cette date s'impose comme un symbole fort. Début mars, l'ambassadeur rwandais à Paris, François Nulikiyimfura, avait jugé consternant ce choix du 7 avril. L'UNICEF, partenaire de l'événement, avait aussi annoncé son retrait. L'organisation de Solidarité Congo, qui indique que les fonds récoltés iront à des associations de Goma et à la fondation Give Back Charity de l'artiste Dadju, appelle au respect de tous les peuples et de toutes les mémoires. L'association des Rwandais de France, qui estime que la tête d'affiche Gims est connue pour des propos qui appellent à la haine, annonce une manifestation devant la salle de concert le 7 avril, car elle estime que cet événement est un concert de la honte.
Au Tchad, le gouvernement a réagi dans la nuit aux déclarations du commandant en chef adjoint des forces armées soudanaises. Le général Yasser Alatta, dans une prise de parole diffusée par Al Jazeera et largement relayée sur les réseaux sociaux, a proféré, selon N'Djamena, des menaces explicites à l'égard de la sécurité et de l'intégrité territoriale du Tchad. Nadia Ben Mafoud.
Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adam Mamat, condamne fermement des propos irresponsables, dit-il, qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. Plus tôt dans la journée de dimanche, le général Yasser Al-Atta avait déclaré « Nous nous vengerons de Mamat Kaka et nous l'avertissons, les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises ». Fin de citation. Depuis plusieurs mois, Khartoum accuse régulièrement N'Djamena de fournir une aide militaire à ses adversaires, les forces de soutien rapide du général Emeti, ce que les autorités tchadiennes démentent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que le Tchad se réserve le droit légitime de riposter avec vigueur à toute tentative d'agression contre le Tchad. Dans son communiqué, Ibrahim Adam Mamat accuse les régimes soudanais d'avoir tenté de déstabiliser le pays, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram, tout en rappelant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence avant de déclarer que le Tchad demeure fidèle à sa position de neutralité dans le conflit intersoudanais. Nadia Ben Mafoud, N'Djamena, RFI.
Au Mozambique, une rencontre entre le nouveau président Daniel Chapo et l'opposant Venancio Mondlane qui continue à revendiquer sa victoire à la présidentielle. Cette rencontre s'est déroulée hier soir au centre international de conférence Joaquim Chissano de Maputo. Il aura donc fallu plus de 6 mois après les élections générales très contestées du 9 octobre pour que les deux hommes se parlent. Peu de détails ont filtré sur la teneur de l'entretien, Gaël Lalex.
Une poignée de main, des sourires crispés et quelques applaudissements, ce sont les seules images de la rencontre qui sont diffusées depuis hier soir. Sur sa page Facebook, Venancio Mondlane explique ce matin s'être entretenu avec Daniel Chapo en raison de l'insécurité extrême dans laquelle se trouve le pays. Selon l'opposant, un processus conjoint pour trouver une solution a été engagé. Il doit s'exprimer en direct sur ses réseaux sociaux plus tard dans la journée. Le dialogue, c'est notre priorité, a simplement écrit hier soir Daniel Chapo sur Facebook. Un peu plus tôt, la présidence mozambicaine expliquait dans un communiqué que les discussions entre les différentes forces politiques et sociales représentent une étape décisive pour rétablir la confiance dans les institutions du pays. À cette heure, Venancio Mondlane fait toujours l'objet de plusieurs enquêtes du procureur général de la République, qu'il accuse notamment d'incitation à la violence durant la crise post-électorale. Ses déplacements sont limités. De son côté, l'opposant continue de demander justice pour les victimes de la répression de cette crise. Elles sont plus de 300, selon la société civile. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Deux journalistes enlevés ce matin au Burkina, le président de l'association des journalistes du Burkina Faso et le coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Tous deux ont été embarqués à Ouagadougou sans mandat par des hommes en civil disant appartenir au service de renseignement. Destination inconnue. Ces nouvelles disparitions, Sidi Yansané, s'ajoutent à celles la semaine dernière signalées au sein du mouvement politique Sens.
Oui, Nicolas, en seulement une semaine, au moins 7 personnes perçues comme des voix critiques des autorités burkinabées ont été enlevées au Faso. Ce matin, les disparitions ont eu lieu au Centre national de presse Norbert Zongo et elles visaient Gezouma Sanogo et Boukari Woba, respectivement président et vice-président de l'Association des journalistes du Burkina Faso. Boukari Woba assure également le rôle de coordinateur du Centre national de presse Norbert Zongo. Et d'après sa page Facebook, l'AJB renouvelait son bureau national il y a à peine 3 jours. Et dans la foulée, ce week-end, son président Gezouma Sanogo dénonçait auprès de l'AFP des atteintes à la liberté d'expression jamais égalées depuis le putsch du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'une totale mainmise de la junte du président de transition sur les médias publics RTB et AIB, devenus outils de propagande. La semaine dernière, c'est le mouvement politique Sens qui subissait des arrestations sans motif officiel. D'abord, son secrétaire national Idrissa Bari, emmené par des hommes en civil se présentant comme des gendarmes. Et ce week-end, c'était au tour de 4 de ses camarades emmenés vers une destination inconnu, explique Sens dans un communiqué. Juste avant ces disparitions, le mouvement dénonçait les massacres récents de Peul à Solenzo dans l'ouest du pays, massacre attribué à l'armée burkinabé et CVDP.
Au Mali, à présent, un défenseur des droits humains accuse la sécurité d'État de nombreux enlèvements et arrestations extrajudiciaires. Souleymane Camara demande que cela cesse et il appelle à une réforme, Serge Daniel.
Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali se dit inquiet face aux arrestations extrajudiciaires, selon lui de plus en plus nombreuses dans le pays. Souleymane Camara.
Nous soutenons qu'un climat de terreur est en train de s'installer au Mali. Des hommes circulant dans des véhicules sans immatriculation effectuent des arrestations fréquentes, sans mandat judiciaire, et conduisent les personnes enlevées dans des destinations inconnues.
Il pointe du doigt les services de renseignement du Mali, l'Agence nationale de la sécurité d'État.
C'est l'œuvre de la sécurité d'État du Mali, puisque les personnes victimes d'enlèvements puis relâchées l'ont toujours affirmé.
Différentes sources confirment des cas avérés de citoyens détenus sans jugement sur une longue durée dans les locaux des services de renseignement. Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali réclame un changement dans le fonctionnement de la structure étatique qui a déjà notamment arrêté journalistes, activistes et hommes politiques. Souleymane Camara.
Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de judicialiser ces services de renseignement du Mali pour éviter les abus et les fréquentes violations des droits de l'homme.
Afin de bien faire comprendre sa démarche, Souleymane Camara explique comme d'autres « J'aime mon pays, je ne demande pas la dissolution de la sécurité d'État, mais sa réforme ». Serge Daniel, Dakar, RFI.
Il est midi 41 à Bamako.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, le premier anniversaire de l'élection de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Un autre anniversaire au Cameroun, les 40 ans du RDPC, le parti au pouvoir. Et puis les sports du football, sixième journée des éliminatoires du Mondial 2026. Au Sénégal, c'est donc le premier anniversaire de l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Le 24 mars 2024, le candidat de l'opposition imposait une troisième alternance démocratique au pays avec une victoire dès le premier tour de la présidentielle, 54% du jamais vu. Léa Lisa Westerhoff, vous êtes la correspondante de RFI à Dakar. Le président Diomaye et celui qui allait devenir son premier ministre, Ousmane Sonko, ont été élus sur une promesse de rupture et de changement. Où en est-on un an plus tard?
Eh bien, une nouvelle éthique, un changement de style à la tête de l'État, voilà les mots-clés des nouvelles autorités. Élues sur la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, l'exécutif a rapidement pris des décisions pour réduire le train de vie de l'État et lancer toute une série d'audits, et notamment ceux des comptes publics. Et c'est un changement de cap pour le professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diaw.
Cette rupture se manifeste par une forme de rigueur dans la transparence, dans la gestion des affaires, et puis un exercice aussi de vérité. On l'a vu avec les résultats lors de la présentation de rapports de la Cour des comptes, de dire la vérité aux Sénégalais et d'être plus proche d'eux dans les pratiques politiques.
Dire la vérité aux Sénégalais, la vérité c'est pour l'heure des comptes publics très dégradés, hérités de l'administration précédente.
Oui, les caisses sont vides, avec une dette publique plus importante qu'annoncée pour atteindre près de 100% du PIB. Cette catastrophe budgétaire, comme la qualifient les autorités, c'est un frein, évidemment, pour financer les grandes réformes. L'exécutif va donc être obligé de faire preuve de créativité pour trouver les moyens de sa politique, notamment auprès du FMI, dont une délégation se trouve en ce moment à Dakar.
Mais pendant ce temps, les attentes de la population sont immenses.
Oui, en termes d'emploi, de baisse de la cherté de la vie, mais aussi de réforme de la justice, les promesses ont été nombreuses. L'impatience gagne donc doucement du terrain, d'autant plus que le parti au pouvoir a la majorité absolue au Parlement depuis décembre et peut donc faire passer des lois. Les acteurs de la société civile réclament une série de réformes dans le domaine de la justice, notamment mettre fin aux peines de prison en cas de délit d'opinion. Le gouvernement, de son côté, rappelle qu'il a été élu pour 5 ans et assure qu'il va poursuivre les réformes.
Léa Lisa Westerhoff, en direct de Dakar. Au Cameroun, le RDPC, le parti du président Paul Biya fête, lui, aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Une célébration qui coïncide avec les préparatifs de la prochaine présidentielle en octobre, pour laquelle Paul Biya, 92 ans, est présenté comme le candidat naturel du parti. un parti qui a depuis le début sa machine politique, Polycarpe Samba.
C'est à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, que naît le RDPC en 1985. Paul Biya est au pouvoir depuis 3 ans et a déjà eu affaire à 2 importantes crises politiques. La première avec son mentor, l'ancien président Amadou Ahidjo, qui en démissionnant de la présidence avait gardé la main à la tête de l'UNC, le parti unique d'alors. Quelques mois plus tard, en avril 1984, le pouvoir est ébranlé par une tentative de coup d'État qui finit par convaincre Paul Biya de créer sur les cendres de l'UNC une formation politique qui lui est toute dédiée. Le nouveau parti présidentiel, le RDPC, est né. En 1991, avec le retour au multipartisme, le RDPC, qui était installé dans le confort du parti unique, doit soudainement faire face à sa première compétition électorale. Le début de la décennie 90 est référencé sur le terrain politique par les années dites de braise. L'opposition pousse pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Le RDPC plie, mais ne rompt pas. La conférence n'aura pas lieu. En octobre 1992, le président Paul Biya, dans un environnement politique tendu, est déclaré vainqueur de la première élection présidentielle pluraliste face à Ni John Frundi. Depuis cette année-là, le RDPC a travaillé à reconquérir la quasi-totalité des institutions au point de devenir un quasi-parti-État, avec ce que cela peut comporter d'inertie et d'immobilisme, selon certaines critiques des observateurs de la scène politique nationale. Polycarpe Samba Yaoundé, RFI.
On passe à l'actualité des sports du football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se poursuivent en Afrique. Cédric de Oliveira, 6e journée déjà. Et 8 matchs au programme.
Et ça commence dans quelques minutes avec Namibie, Guinée équatoriale dans le groupe H. Début donc à 13h temps universel. En cas de victoire, la Namibie prendrait la tête. Un peu plus tard, le Liberia défiera Sao Tomé et Principe. Et puis dans le groupe I, le Mali devra confirmer son regain de forme et sa victoire contre les Comores la semaine dernière face à la Centrafrique. Les Aigles, qui ne sont que 4e à 4 points du leader, le Ghana, doivent prendre les 3 points pour ne pas être trop distancés dans ces éliminatoires. Attention au Centrafricain tout de même, même s'il compte 3 défaites en 5 matchs. Il ne faut pas les sous-estimer, selon le sélectionneur du Mali, Tom Saint-Fit.
Tout le monde va penser que c'est un match facile parce que Centrafrique a perdu leurs derniers 6 matchs. Mais Mali, l'année passée, a seulement joué un match nul contre Centrafrique et aussi Ghana a seulement gagné 4-3 contre Centrafrique. Donc on doit être prudent, on doit respecter l'adversaire et on doit faire tout de notre travail pour faire un bon match. On demande une victoire, c'est clair, mais ça va être très important qu'on n'est pas nonchalant, qu'on n'ait pas pense que ça va être facile.
Ah, Tom Saint-Fit avant Mali-Centrafrique, match qui aura lieu à Casablanca. Dans le même groupe, Madagascar défie le Ghana, le leader. Le coup d'envoi, ce sera à 19h TU.
Dans le groupe A, à présent, le Burkina Faso a un match capital contre la Guinée-Bissau dans la course à la première place.
Et on rappelle que seul le premier de chaque groupe est qualifié pour ce mondial. Pour l'instant, le Burkina n'est que 2e à 5 points de l'Égypte. Et après leur victoire 4-1 contre Djibouti vendredi, eh bien, les étalons continuent de rêver. Ils n'ont pas d'autre choix que de faire le plein, estime le sélectionneur burkinabé Brahma Traoré.
Nous allons jouer contre une équipe qui est un peu au-dessus de Djibouti. Donc il faut être prêt, il ne faut pas s'attendre à un match facile parce que les Bissau guinéens seront à domicile. Ils vont chercher tout de suite à faire leur santé après leur défaite contre la Sierra Leone. Le Burkina veut engranger beaucoup de points. Donc nous avons une grande envie en tout cas d'aller vers la victoire. Et c'est important pour la suite des événements.
Brahma Traoré, le sélectionneur burkinabé au micro de Gabriel Barrois. Coup d'envoi de Guinée-Bissau, Burkina à 16h TU. Et puis à suivre également Côte d'Ivoire-Gambie. Ce sera à 19h temps universel à Abidjan, un match du groupe F. On rappelle que les éléphants sont 2e à 2 points du leader, le Gabon, qui a battu le Kenya hier.
Premier résultat de ces 8 matchs dans Afrique Soir, 18h30, temps universel. Il est 13h49 à Paris, Clotilde Dumay, les grands titres de ce lundi 24 mars.
Les Ukrainiens prévoient de nouvelles discussions avec les Américains aujourd'hui. C'est en tout cas ce qu'indique à l'agence France-Presse un membre de la délégation ukrainienne qui attend d'abord les conclusions des pourparlers organisés en ce moment en Arabie Saoudite entre les émissaires américains et russes concernant une éventuelle trêve en Ukraine. La Commission européenne exhorte la Turquie à respecter les valeurs démocratiques. La Grèce juge la situation préoccupante. Réaction alors que le maire d'opposition à Istanbul a passé sa première nuit en prison, Ekrem İmamoğlu accusé de corruption. Il a malgré tout officiellement été désigné par son parti candidat à la présidentielle de 2028. Dans le même temps, la contestation pour dénoncer cette incarcération se poursuit malgré l'interdiction de tout rassemblement. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées en moins d'une semaine. Et puis le procès de Gérard Depardieu vient de débuter en France. L'acteur est arrivé dans la salle d'audience au tribunal de Paris. Il est accusé d'agression sexuelle sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. L'ensemble de ces accusations sont mensongères, a redit son avocat avant l'ouverture de ce procès.
Pour la première fois, le sommet de l'organisation sur le génome humain s'est déroulé en Afrique, dans la ville sud-africaine de Durban. Malgré les grandes avancées dans ce domaine, plus de 20 ans après le premier décryptage complet d'un génome humain, les populations africaines demeurent les grandes oubliées des études mondiales. Elles représentent moins de 2% des génomes séquencés. Ce biais, le chercheur Ambroise Wonkam, le président de la Société africaine de génétique humaine, le dénonce depuis des années. Il répond aux questions de Claire Bargelès.
Ambroise Wonkam, bonjour.
Bonjour.
Que sait-on du génome humain à l'heure actuelle?
Ce qu'on en sait, c'est que c'est une immense bibliothèque de 23 paires d'étagères que nous appelons techniquement les chromosomes. Et dans ces chromosomes-là, il y a 20 000 paires de livres que nous appelons gènes. Et dans ces gènes, il y a des lettres que nous appelons nucléotides. On en a 3 milliards. Nous savons que dans ces 3 milliards de nucléotides, il y a seulement 2% qui représentent ces livres que nous appelons gènes, qui codent pour les protéines. Nous savons également que toutes les populations humaines viennent du continent africain.
Et donc, que sait-on des variations de ce génome chez les populations restées sur le continent ?
Justement, on n'en sait pas grand-chose. C'est que nous connaissons des lettres de l'alphabet de notre génome. Jusqu'à 98%, ce sont les variations des populations en général européennes. Les programmes de séquençage des génomes jusqu'à présent, ce sont des programmes nationaux. L'un des plus illustres, c'est le UK Biobank, qui a séquencé plus de 500 000 à ce jour populations d'origine britannique. Ces pays-là, ce sont les pays que nous disons à ressources élevées. Et dans ces cas-là, ce sont les pays européens ou américains. Conséquemment, jusqu'à présent, les représentations des populations d'origine européenne est largement plus disproportionnellement représentée par rapport à ce que nous souhaiterons voir. Ça veut dire qu'une bonne partie des variants génétiques qui sont dans les populations africaines d'aujourd'hui, nous n'en connaissons rien parce qu'en fait, ils n'ont jamais quitté le continent.
En pointant du doigt les différences au niveau du continent africain, est-ce qu'il n'y a pas un risque de réveiller les vieux démons du racisme ?
Absolument pas. Et je pense qu'on a tous un intérêt scientifique de connaître la diversité génétique africaine. Premièrement, on est tous africains, donc c'est la raison ancestrale. Il y a des parties de notre génome qui ne sont pas encore bien connues, que nous appelons par exemple les parties fantômes du génome. Ce sont des parties en fait que nous avons héritées de certaines populations humanoïdes qui n'ont jamais quitté le continent. La deuxième raison, c'est l'écologie du continent africain qui est radicalement différente de l'écologie du continent européen ou asiatique. Le continent africain a une orientation nord-sud et cet axe nord-sud permet d'avoir une diversité environnementale du Caire à Cape Town et au milieu on a la forêt équatoriale. Chaque fois qu'on a une diversité environnementale, cela met la pression sur notre génome et notre génome est modifié. Plus vous avez de diversité environnementale, plus vous avez une diversité en infections et les infections également modifient notre génome au cours du temps.
Et si on n'a pas suffisamment de données sur toutes les populations, elles se retrouvent exclues des avancées de la médecine?
Absolument. Il y a également la raison d'équité. Si nous ne connaissons pas, par exemple, les gènes qui sont les plus importants en termes de diagnostic génétique des maladies génétiques des populations africaines, il est impossible pour moi, en tant que médecin généticien, de soigner un enfant africain de la même façon que je soigne un enfant européen. Il y a très longtemps, je vivais et travaillais en Suisse. Si je vois un enfant suisse, européen, qui est né avec une surdité, en testant un seul gène, dans 50% de cas, je résous la question de l'origine de la surdité. Lorsque je suis retourné sur le continent africain, j'ai testé les enfants camerounais ou les enfants sud-africains noirs. 0% de ces enfants n'avaient des mutations dans ces gènes. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle l'un des axes de recherche aujourd'hui pour moi, c'est de retrouver des gènes qui sont relevants pour la surdité dans la population africaine.
Et puis on peut dire que se priver de ces données, c'est ralentir la recherche mondiale puisqu'elles contiennent des réponses pour l'ensemble de l'humanité.
Je vais vous donner un exemple typique. Il y a un gène qui a des variants qui sont représentés dans les populations africaines 200 fois plus que dans les populations européennes. Et nous savons que ces variants sont associés à une réduction du taux de cholestérol de plus de 40% si vous comparez un Africain et non un Africain vivant dans le même environnement. Et cette connaissance a permis de développer au moins 3 médicaments pour lutter contre le taux de cholestérol élevé. Sans étudier la population africaine, ces médicaments n'auraient pas été développés.
Cependant, sur le continent, la priorité est plutôt mise sur les maladies infectieuses comme le paludisme ou le sida et le séquençage des virus plus que le séquençage du génome humain.
Oui, c'est une priorité logique, mais je dois aussi dire que la crise du Covid nous a montré que les laboratoires de génétique, ce n'est pas seulement pour les maladies rares. Avec les mêmes équipements, vous détectez les virus de l'hépatite virale, vous détectez les virus du HIV, et ça permet également d'étendre en fait l'utilisation de la technologie génétique. Donc ce n'est pas seulement pour les maladies rares humaines, mais ça peut être aussi utilisé pour les maladies infectieuses.
Vous aviez l'ambition de séquencer 3 millions de génomes humains en Afrique. Où en est-on de ce projet ?
Le projet a évolué. Nous travaillons avec un groupe de leaders africains, Dr Mulder de Cape Town et Dr Christian Happy du Nigeria et moi-même. Notre ambition, c'est de développer 10 centres d'excellence dans les 10 prochaines années sur le continent africain. Et chaque centre d'excellence sera équipé avec des ressources financières de 10 millions de dollars par année. Notre ambition, c'est de commencer à séquencer à peu près 300 000 génomes. Il y a un groupe d'industries qui se sont organisés. Ils ont déjà commis de séquencer les premiers 25 000 génomes. Les machines de séquence ont été déjà installés dans deux laboratoires et on a déjà commencé les premiers séquençages humains. Donc le projet avance et j'espère que dans les deux prochaines années, on sera capable de le lancer officiellement.
Donc vous êtes passé de 3 millions de génomes à une décentralisation en quelque sorte entre différents pays.
Je suis toujours convaincu qu'il faut un minimum de 3 millions, mais pour faire un long chemin, il faut toujours commencer par un premier pas. Et le premier pas, c'est 300 000.
Ambroise Wonkam, merci.
Merci beaucoup de votre attention et merci à tous les auditeurs.
Ambroise Wonkam, président de la Société africaine de génétique humaine, invité de Claire Bargelès. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications, rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Il est la figure montante du design à Madagascar dans quelques jours qui a dit « Ratu Vosson, 28 ans, s'envolera en Italie pour exposer à la Milan Design Week, le plus gros événement mondial autour du design à Milan dans le nord de l'Italie. En attendant ce grand rendez-vous, le designer nous a ouvert les portes de sa toute première exposition en solo « Objects with Soul, les objets avec une âme » qui mettent à l'honneur bois recyclé et fibres végétales. À Antananarive, le reportage de Sarah Teto.
Au sol, au mur, au plafond, du mobilier du quotidien, aux lignes épurées, conçues à partir de matériaux organiques. Kia Diratouvousson, architecte d'intérieur et designer, nous offre une visite privée au milieu de la trentaine de pièces uniques qu'il a créées pour cette exposition.
Celles-ci là qui sont suspendues, c'est quoi ?
Ce sont des tabourets que nous on voulait suspendre pour avoir plusieurs perspectives. On a aussi des pièces plus hybrides, multifonctionnelles. Là on a une chaise qui voulait devenir une lampe, donc on a l'assise avec le dossier qui continue comme une forme de lampe.
Car c'est bien là la vision de l'artiste, proposer des pièces intemporelles qui vont au-delà du mobilier fonctionnel et esthétique. Des objets conçus pour être durables et modulables selon l'envie et les besoins de ses utilisateurs. Des formes inspirées de la nature et qui s'intègrent dans l'immense variété des habitats d'aujourd'hui.
Sur chaque pièce, je marie mon héritage malgache avec cette identité internationale que j'ai acquise à l'étranger, notamment à Shanghai et à Milan. Exemple, l'héritage malgache sur cette chaise se retrouve sur le dossier qui est tressé en sisal. Je revisite un peu les motifs traditionnels malgaches pour donner aussi un effet beaucoup plus contemporain. La philosophie asiatique se retrouve dans les lignes épurées de la chaise avec cet effet un peu de légèreté. Et enfin, cette forme si particulière avec cette belle courbure, ce sont mes influences milanaises.
L'exposition est à découvrir gratuitement jusqu'au 11 avril à la Flow Gallery à Antananarive. Le public malgache pourra également retrouver les œuvres de Kia Diratouvousson à la toute première foire du design organisée en juin prochain dans la capitale. Sarah Teto, Antananarive, RFI.
Et c'est à Antananarive que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Michael Goncalves et Thomas Yayani. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
Et merci à vous Nicolas Sura. Demain, dans 2 minutes selon votre zone d'écoute, une demi-heure d'actualité sur le continent américain ou bien 30 minutes d'informations en full day ou en portugais.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain. L'appendicite aiguë et la péritonite sont deux urgences médicales qui requièrent une intervention chirurgicale. Quels sont les signes et les traitements adaptés ? Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça ? Posez vos questions, Juliette Rangeval.
Chaque semaine, nous vous expliquons les contraintes et le fonctionnement de la fabrique de l'information. Alors si vous avez des questions ou des commentaires sur notre traitement de l'actualité, à l'antenne comme sur le numérique, une adresse pour nous écrire pourquoi@rfi.fr.
Nous répondons à toutes vos questions tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.